Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il avait toujours protesté avec vigueur contre la qualification d'écrivain régionaliste. Certes, il était, Ramuse était vaudois. Et cela a joué un très grand rôle, nous dit-on. Mais Proust était parisien et cela a dû jouer aussi un très grand rôle. Donc, écrivain régionaliste, non, écrivain universel. À l'occasion du centenaire de sa naissance, Hubert Join a proposé le 15 septembre 1978 une relecture consacrée à Charles-Ferdinand Ramuse. Entend venir, de derrière le Jura, le grand bruit joyeux de la délivrance du monde.
Relecture, une émission de Hubert Join. Aujourd'hui, Ramuse, avec la participation de Claude Bonnefoy, Jacques Sélard, Bernard Voyenne et la voix de Ramuse. Texte lu par François Mestre et Henri Virlogeux. Réalisation Anne Lemaître.
Entre temps j'étonne aussi un soldat qui rentre chez lui. Marche depuis longtemps déjà. S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
Ce sont des choses qu'on ne voudrait dire qu'à mi-voix, confidentiellement dans l'intimité. Or, la radio obéit à des nécessités techniques inflexibles. Elle arrive avec son câble, son microphone, son camion, et votre voix grossie, transformée, méconnaissable, évoque plutôt à l'esprit je ne sais quelle réunion électorale, avec les formules qu'on devine, qui sont précisément celles qu'on voudrait éviter, et les banalités d'usage.
S'impatiente d'arriver parce qu'il a beaucoup marché.
Oh, livre des parentés de sang. Grand livre de la chair vivante, il faut te lire jusqu'au bout. Je me suis laissé descendre à ce fleuve, comme on raconte que dans les anciens temps, les morts lui étaient confiés. Moi aussi, confié à son cours, porté par lui de phrase en phrase, jusqu'à ce que la dernière fût venue, par quoi le livre prend seulement son sens, et seulement on touche à la totalité. Celle où chante la langue d'oc, celle des vignes en étage, celle du roc perçant partout le sol pierreux, la région des eaux rapides, ces régions du sud où les fleuves sont des torrents et se souviennent de la montagne jusqu'au terme de leur cours. Languedoc des maisons, Languedoc des cultures, Languedoc des habillements, Languedoc dans l'allure, Languedoc dans l'accent. Languedoc à muette, non muette en oeil, c'est encore le parler des monts, c'est la forme des rocs, les murs accrochés à la pente. Quand les hommes mettent de la terre entre ces murs, montant ensemble quand ils sulfatent, quand ils désherbent. Et puis, sans le savoir, ayant accumulé lentement en eux cette substance, ayant recueilli goutte à goutte longuement au fond d'eux ce suc, ils ont eu besoin d'y faire goûter. C'est en quoi ils se sont plus complètement exprimés. Alors, m'exprimant à mon tour, je vais à cette expression d'eux pour mieux prendre conscience de la mienne. Ils ont assemblé des pierres, ils ont taillé dedans. Ils ont confectionné des panneaux de bois, ils ont peint dessus, ils ont sculpté le bois, ils ont pris la plume. Ils ont fait prier des personnages dans la pierre comme eux-mêmes priaient, ils les ont fait pleurer et se réjouir comme eux-mêmes pleuraient, se réjouissaient. Il faut que l'édifice ait son couronnement et tout en haut se tient l'expression désintéressée, ce qui n'a d'autre utilité que de faire sentir, faire connaître, faire aimer. Ce qui ne sert à rien quand il s'agit de nourrir le corps ou de le tenir au chaud, à rien quand il s'agit de devenir plus riche, à rien quant aux commodités, quant aux aises, quant au bien-être. Nulle ressource matérielle, mais toutes les autres ressources, lorsque le jour vient qu'elles font besoin. Les mots pour la beauté du mot, l'image pour la beauté de l'image, c'est-à-dire pour la joie qu'on tire de l'image, le Fils de Dieu mis devant nous en figure pour qu'il soit seulement plus vénéré. Pour le prosternement des hommes, pour l'attendrissement des femmes, le signe de croix du simple passant. Pour l'affirmation enfin de nous aux autres, l'affirmation d'une croyance, la proclamation d'une foi. La proclamation de nous au total et de qui nous sommes, la proclamation d'une parenté.
Il y a un siècle, naissait Conrad Ferdinand Ramus. Conrad Ferdinand Ramus, maintenant, il faut bien avouer qu'on le lit peu. On le lit peu, premièrement, parce qu'on trouve assez difficilement ses ouvrages, ses œuvres. Je tiens quand même à signaler qu'au livre de poche, on trouve La Grande Peur dans la montagne et aux éditions Marabout, Aline d'une part et Si le soleil ne revenait pas. Par ailleurs, on peut se procurer aux éditions Pierre Séguer dans la collection Poète d'aujourd'hui, un livre consacré à Ramus par Gilbert Guisan. Et puis, bien entendu, au hasard de la librairie, quelques titres comme La beauté sur la terre, encore chez Grasset, D'Herborance, qui est un des très grands livres de Ramus. Donc, Ramus est né en 1878 à Lausanne. Il mourra en 1947. Ce qu'on peut dire de lui sur un plan strictement anecdotique, c'est fort peu de choses. En réalité, Ramus est quelqu'un qui s'est confié entièrement à l'écriture. C'est un écrivain de naissance. Il est même assez étonnant de voir que cette vocation d'écrivain s'est emparée de lui alors qu'il était fort jeune. Et lui qui était né dans une famille de la bonne bourgeoisie de Suisse romande, a décidé, jeune garçon, adolescent, d'écrire. Le curieux, c'est que sa famille a accepté cette chose quand même bizarre. Il est venu à Paris assez tôt, il est venu à Paris en 1900, il restera à Paris jusqu'en 1914, et c'est à Paris, loin donc des paysages qu'il évoque, qu'il écrira le tiers au moins de son œuvre. Cependant, comment cela se passe-t-il? Il est évident que ce jeune homme, qui part à la conquête de l'écriture, ne va pas immédiatement être le Ramus que nous connaissons. Il commence par écrire des vers, des milliers d'alexandrins qui tiennent simplement à l'école du Parnasse, qui est alors quand même une grande école poétique. Aline, d'ailleurs, sera d'abord un ouvrage écrit en vers, un roman versifié. Soudain, Ramus va s'apercevoir qu'il fait fausse route. Il fait fausse route pour deux raisons. D'abord parce que il déparle, comme il dirait peut-être, c'est-à-dire il parle à côté de sa langue, à côté de la langue qui lui semble la plus convenable. Et d'autre part, il vient de subir la tentation du journal. Il tient un journal que nous connaissons maintenant, et il s'aperçoit que, mon Dieu, ce journal pourrait le conduire à devenir une sorte de second Amiel. Et ça, il n'en veut pas non plus. Quelque chose va le pousser, va évidemment le surprendre, c'est la rencontre de l'œuvre de Cézanne. Et là, il est quand même très curieux de voir à quel point Cézanne peut marquer un écrivain comme Ramus, tout en marquant un écrivain comme Rilke. Cette approche de Cézanne pour Ramus, eh bien, ça va être l'approche de l'objectivité. Ce qu'il entend par objectivité, c'est-à-dire écrire le monde comme si lui, Ramus, en était absent, ou plutôt n'y était présent que par son écriture. Alors, Jacques Sellard, il y a, chez Ramus, cette objectivité, ou cette tentative d'objectivité, outre les mythes paysans qu'il va réinsérer.
Oui, c'est très volontaire, très élaboré. L'objectivité, c'est avant tout l'objectivité d'une démarche commune de la pensée entre Ramus et ces personnages qui sont des Savoyards, des Suisses Savoyards ou des Savoyards de Suisse, qui sont extrêmement marqués par la montagne, par le rythme très dur de la montagne, loin de l'allégresse, enfin de la facilité du verbiage presque de la ville, l'abondance dans Ramus de formes extrêmement simples, le refus d'une phrase un peu élaborée, le désir constant de revenir sur ses pas, de se répéter, sont très très sensibles, très significatifs. Il y a véritablement là une harmonie imitative d'une démarche de montée. C'est très sensible, par exemple, dans La Grande Peur dans la montagne, qui est le roman de la montagne qui se défend contre les hommes, qui a résolu, la montagne a décidé de préserver un espace qui offrirait de la pâture, donc de la nourriture, de la pâture aux bêtes, donc de la nourriture aux hommes, à la commune, dans les conditions très très difficiles de survivance des communes de montagne, uniquement attachées au bétail, ne tirant leur subsistance que du bétail. Or, la montagne a décidé que ce coin resterait inviolé. Et on voit sans cesse dans le roman cette montée suivie de redescente absolument comme sur les graviers du torrent le long duquel on monte vers les hauts, vers les alpages, et sans arrêt, c'est trois pas en avant, deux pas en arrière, tout le temps.
Mais avec un rythme de brisure, quand même, de rupture, qui lui aussi est volontaire, parce qu'il casse la phrase, malgré tout.
Il l'empêche, je dirais,
de ronronner.
Donc, il l'empêche de rouler, il l'empêche de faire des effets, il l'empêche de se développer, exactement parce que, à mon point de vue, parce que dans la montagne, on ne peut pas galoper. Les plats sont de très très courtes distances, donc c'est vraiment le rythme, trois pas penchés pour monter, et puis les graviers, les cailloux qui glissent sous les pas, et on redescend, et on recommence deux pas. Donc la phrase va recommencer elle-même comme recommence le marcheur. J'ai peut-être, si vous voulez, un exemple concret, un rendez-vous, une rencontre dans la montagne. Ils avaient le coucher de soleil derrière eux ils avaient la haie, ils s'asseyaient dans l'herbe. Ils étaient bien, ayant le coucher de soleil et aussi la haie derrière eux. En avant d'eux étaient les prés en pente au bas desquels il semblait que le village s'était laissé glisser, comme les gamins font sur leur fond de culotte. Il y avait un peu en avant du torrent, sur une partie assez plate, où elle s'était arrêtée, cette réunion de petits toits, et ils se tenaient serrés là sous leur petite fumée bleue. Il y a une volonté absolue, presque de réincorporer dans la phrase des mots qu'un écrivain plus soigneux, entre guillemets, aurait, lui, éliminé. Les petits toits, les petites fumées bleues, c'est une volonté de bien, bien situer. Le coucher du soleil est derrière eux, ils ont le coucher du soleil derrière eux, et aussi la haie, et puis en avant, et la pente, et la glissade. Tout ça me paraît extrêmement volontaire.
Oui, mais il y a autre chose dans la phrase que vous venez de dire, Jacques Sellard. On a l'impression, enfin comme ça, à l'entendre, ou à la lire, qu'on pourrait rapprocher ceci d'un tableau de primitif. J'entends de primitif flamand, par exemple, ou d'un patinir même. C'est-à-dire,
oui.
Où patinir, par exemple, me paraît être un bon exemple, puisque patinir a ces paysages rocheux, ces routes de montagne, effectivement, ces masses compactes d'arbres, avec une sorte de refus qu'on trouve chez les primitifs, nécessairement, bien sûr, puisqu'ils ne l'ont pas encore acquise, de la perspective. Et il paraît aussi, il me semble, que Ramus, on le voit dans Aline, où il y a la lune, enfin, qui tout d'un coup devient une sorte d'objet, mais d'objet de miniature, presque, comme dans les grandes heures du duc de Berry, enfin. Il me semble qu'il y a ça.
sortait de derrière la colline. Elle s'élargissait lentement, découpée dans le bas en dents de scie à cause des sapins. Puis elle se poussait toute ronde et cahotante sur les pentes du ciel. On voyait autour d'elle une lueur trouble, comme une couronne. Sa lumière en tombant détachait des branches une ombre froide, et le ciel tout à coup était vide de ses étoiles. « Tiens, » disait Julien, « voilà la lune qui se lève. » Aline répondait, « On dirait que c'est le bois qui brûle. » Comme elle est rouge. Et puis à présent, elle est toute blanche. Elle est grande comme un gâteau. Leur voix se tenait un moment au-dessus d'eux avec incertitude. Bientôt, rabattue par la lune, elle s'égarait dans les buissons. Aline reprenait, « Elle a deux yeux, un nez et une bouche comme une personne. »« Oh !» disait Julien, « Elle est comme une tête de mort. »« Ne parle pas de ça, » disait Aline. « Ça porte malheur. » Les bêtes de la nuit bougeaient dans les haies. La chouette criait dans les bois. C'était ensuite comme s'ils tombaient dans un trou. Ils y restaient longtemps, étourdis. Mais peu à peu, la terre, le ciel, la nuit ressortaient autour d'eux. Et ils sentaient une fatigue douce dans tous leurs membres. Le plus souvent, ils parlaient peu. Ils ne savaient pas que se dire. Aline disait « Je t'aime tellement, tellement. » Il répondait « Moi aussi. » C'était tout.
Il y a à la fois une statique, il y a des successions de tableaux extrêmement statiques et effectivement d'une facture primitive, immobile. Mais il y a en même temps cette dynamique très lente de la lutte constante dans un plan vertical. Je veux dire par là que je suis extrêmement frappé de voir dans Ramuse l'abondance des notations plat, vers le haut, vers le bas, monter, descendre, en avant, en arrière. C'est extrêmement situé parce que l'environnement, le paysage, est lui-même extrêmement contraignant. On vit au fond en lutte permanente avec la montagne, avec le fait que la montagne est à la fois la menace et en même temps la vie.
Oui, mais il dit quelque part, dans un de ses textes de chronique, il parle de l'écrivain et il dit que l'écrivain, c'est à peu près, enfin, il se montre à une table, c'est lui l'écrivain, devant une fenêtre ouverte. Et dans cette fenêtre ouverte est cadré un paysage. On a l'impression aussi que lui, son paysage est cadré comme s'il était vu dans une découpe de fenêtres ou limité par les bords d'une toile, comme dans Cézanne.
Tout à fait.
Comme la Sainte-Victoire, par exemple.
En termes de cinéma, il y a énormément de plans fixes dans Ramuse, constamment. Et on passe d'un plan fixe à un autre par des mouvements extrêmement lents et qui ne sont jamais acquis, puisqu'il y a toujours l'idée que chaque pas fait dans la montagne, en montant ou en descendant, est une victoire sur le recul, sur être entraîné par la montagne vers le haut, ou vers le bas, enfin vers la redescente.
Il y a aussi, ça je suis frappé en voyant si le soleil ne revenait pas chez Marabout, il y a aussi cette grande opposition du jour et de la nuit. Enfin, j'entends que la palette de Ramus n'est pas une palette de coloriste, exactement. Enfin, ce sont des tons très nets, finalement. Le noir, oui. Le blanc, le rouge, le vert, le jaune, enfin...
Gris.
Le gris. Il n'y a que le gris qui est...
Le blanc, le gris, le gris, oui. Le blanc. Oui. Et puis alors, par moments, arrive, et je m'en tiens toujours un peu à ce texte, La Grande Peur dans la montagne, qui a l'avantage d'être un des plus accessibles en France, puisqu'il est en poche, et en même temps, un texte intéressant, un beau texte. En même temps, la couleur intervient, mais elle est d'ordre fantasmatique, presque inquiétant. Par exemple, il y a une débauche de couleurs dans les cailloux que cloue un des héros de ce drame dans la montagne. Clou est devenu à peu près fou et il voit des trésors là où il n'y a à peu près que des graviers de couleurs, des petites pierres de quartz teintées. Il en remplit ses poches. Tout se terminera par la mort des hommes qui ont affronter la montagne interdite. Et alors là, il y a véritablement des émeraudes, mais de toute façon, c'est vrai que la palette des couleurs est presque toujours dans des couleurs pâles, éteintes, assourdies, transparentes, opalines.
C'est encore une palette à la Cézanne, malgré tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, en pensant à Cézanne, puisque le rapprochement s'impose, Ramus le disant lui-même, montrant cet exemple privilégié, il y a quand même chez Cézanne, par exemple, un tableau, enfin les tableaux de la Sainte-Victoire, où on voit Cézanne gommer dans le paysage ce qui l'ennuie. C'est-à-dire, pour obtenir l'équilibre de son tableau, il biffe les 4 kilomètres qui, dans la réalité, séparent l'aqueduc de la montagne elle-même, n'est-ce pas ? Et on a l'impression aussi que Ramus procède un peu de cette façon-là, enfin par une sorte d'élision.
Quand on monte dans les pâturages, tout en haut, là où l'herbe cesse, on arrive soudain au pied d'une grande corne de rocher. Grise, portée en l'air par 2 arêtes aiguës qui se rencontrent à sa base, elle est ruinée et crevassée, elle penche un peu de côté. Et continuellement, pendant que les doux nuages glissent derrière, blancs et ronds, sur le ciel tout bleu, dans toute sa hauteur, parmi les parois lisses et les pentes abruptes, la chaleur de midi et l'eau travaillent, la minant petit à petit. On entend les pierres qui roulent. Parfois aussi un gros bloc se détache. Il tombe, il rebondit, puis heurte tout à coup un autre roc sur son passage et éclate en 1000 débris qui s'éparpillent de tous côtés. Et ainsi, sans cesse, grandit le pierrier. Ainsi, lentement, la montagne s'en va, n'ayant point comme d'autres sa cuirasse de glace. Elle est nue, la gelée y mord. À peine dans ses replis, si les névées subsistent pendant les longs étés. Un jour elle ne sera plus, et le petit lac tarira. C'est par lui toutefois qu'elle est encore utile, nourrissant cette eau au bas du pierrier. Entre les gros quartiers de roc, peints comme avec un pinceau d'une couleur verte très pâle, c'est une eau ronde, lisse, et les souffles qui passent font dessus comme une dentelle. Plus rien que cette eau et les pierres. Un maigre gazon aux endroits humides, ou encore, sur le bord de la neige qui se retire, la petite soldanelle, ouverte au matin et feuillée au soir. Quelquefois un oiseau passe dans l'air, et il étonne par son mouvement et son cri. Ou bien c'est un papillon rose. Les mêmes qu'on trouve sur les glaciers. On le voit porté par le vent qui hésite, battant de l'aile, et meurt tout de suite, saisi par le froid. Et dans le lac encore, on voit réfléchis les pentes rocailleuses et le ciel au-dessus, d'où une apparence bleue et claire au milieu. Mais vers les bords, c'est une eau noire et comme morte qui fait peur.
Beaucoup de voir Ramus réduit à un écrivain régionaliste. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a chez Ramus, comment dire, la mise en application, la récupération, je ne sais pas, d'un langage roman ? Ou, comme disait Saint-Gria, lotharingien ?
Non, non. Non, parce que les écarts qui marquent la langue de Ramus par rapport aux Français sont vraiment très très faibles, sont insignifiants. On ne peut pas dire d'une façon générale qu'une frontière politique est toujours une frontière linguistique. S'il est vrai que la Wallonie a véritablement un français extrêmement marqué, fort, qui d'ailleurs est, c'est vrai aussi pour la Picardie, donc à l'intérieur de l'Hexagone, il se trouve que ce n'est pas le cas pour la partie de langue française de la Suisse romande, qu'il y a des régionalismes, mais assez peu qu'on retrouverait vraiment dans d'autres régions françaises qui tiennent souvent à des objets précis qui n'ont d'utilisation que dans la région. Le fenil, qui est le petit grenier à foin monté sur quatre pilotis pour éviter les rats, l'humidité, ce fenil est répandu à peu près dans toute la France régionale de l'Est. Les bottilles, les petits les tonnelets de petits vins blancs sont également se retrouvent en Franche-Comté. Le comte de 70, 80, 90 est pratiquement commun à toutes les bordures nord et est de la zone hexagonale, au point qu'on peut dire que c'est nous qui faisons exception avec nos 70, 80, 90, et c'est eux qui sont dans le droit fil de la langue avec 70, 80 et 90. L'eau de cerise, une certaine volonté tout de même de garder des régionalismes. L'eau de cerise qui est du Kirch reste de l'eau de cerise. On dira encore que c'est bien de la nourriture tourmentée. Tourmentée, c'est de la nourriture abîmée, gâchée. Enfin, mais quelques des balais de biol, des balais de boulot, c'est vraiment insignifiant. C'est assez naturel dans Ramuse, en ce sens qu'on n'a pas le sentiment ni qu'il les ait rajoutés pour faire couleur locale, ni qu'il les ait évités en se disant « mon lecteur ne comprendra pas ». De temps en temps, un germanisme, le boob,
le garçon,
le garçon qui est du boob allemand, quelques syntaxes à peine surprenantes d'ailleurs, comme qu'il en aille, qu'il en soit comme vous voudrez, oh, comme qu'il en aille, on tient le grand beau, le beau temps est pour nous. Véritablement, à moins d'avoir une notion extrêmement restrictive de l'usage du français, il est moins classable, encore moins comme écrivain régionaliste, que Giono ou Colette, qui sont beaucoup plus marqués à cet égard.
Il y a d'ailleurs un autre phénomène très frappant chez Ramuse, et aussi qui est important, donc il a beaucoup parlé, c'est sa rencontre avec Igor Stravinsky, c'est-à-dire sa rencontre avec le domaine russe. Parce qu'on pourrait quand même voir dans Ramuse l'un des écrivains français, puisqu'il écrit quand même en français, le plus proche de certains conteurs russes. Je pense à la steppe de Tchekhov, par exemple. Et il est vrai que, dans ses souvenirs sur Stravinsky, il dit « moi j'ai fait un texte russe et lui a fait une musique vaudoise ». Pour dire, à propos de l'histoire du soldat, que l'échange avait été très, très parfait entre eux.
J'ai l'impression que paradoxalement, ça tient évidemment pas au paysage, puisqu'ils sont opposés en tout point. L'un est absolument le paysage de la verticalité, l'autre
de l'horizontalité.
Mais à une égale lenteur, une égale placidité paysanne, c'est-à-dire une égale sûreté de démarche.
Ça va bien pour le moment, mais le royaume n'est pas tant grand qu'il est limite franchir, comme mon pouvoir tombera. Ne poussez pas plus loin qu'il est permis, sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit. Et quant au prince, son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On le mènera droit en bas, où tout vivant il retient.
Vous me parliez alors de votre pays, Stravinsky, et que je vous parlais du mien, C'était bien plus encore qu'une frontière terrestre qui tombait. Les frontières terrestres ne sont pas seules en cause. Qu'elle tombe, qu'elle soit tombée, encore se heurte-t-on à ces autres frontières qui sont entre les hommes, la séparation de leur corps, et que leur corps, à chacun d'eux, est une fin, avec le vide ensuite, un vide infranchissable. Quand vous me parliez, certains soirs, de votre pays, et que je vous parlais du mien, que nous cheminions à travers le vôtre en pensée, ou que nous cheminions en état de chair dans le mien, puis j'allais jusqu'à dire que parfois il me semblait que ce vide n'existait plus, et nous n'étions plus deux personnes, et il n'y avait plus deux pays, parce que, par-delà les deux pays, par-delà tous les pays, par-delà nous-mêmes, il y a peut-être le pays, perdu, puis retrouvé, puis perdu de nouveau, puis retrouvé pour un instant, où on a en commun un père et une mère, où la grande parenté des hommes s'entreaperçoit pour un instant. Et n'est-ce pas à la réapercevoir que tendent en somme tous les arts, et à nulle autre chose? N'est-ce pas à quoi tendent les mots qu'on écrit, les tableaux qu'on peint, les statues qu'on taille dans la pierre ou qu'on coule en bronze, à cela, à nulle autre chose? Nous atteignons, pour un instant, peut-être, à l'homme d'avant la malédiction, d'avant la grande première bifurcation dont chacun des embranchements a comporté ensuite une bifurcation nouvelle et celle-ci une autre, et ainsi de suite à l'infini, de sorte que, pour finir, on est chacun tout seul sur son petit bout de sentier, où on sent bien que rien n'est abouti, rien n'est éclos, rien n'est complet, rien n'est parfait, car aucune musique n'est parfaite, aucun livre, aucun tableau. Et tout travail, d'abord, est dur, tout travail difficile, tout travail, toute espèce de travail se fait d'abord contre nous-mêmes et contre quelqu'un. Jusqu'à ce qu'à de rares instants, ainsi, par une espèce de renversement, la bénédiction intervienne. Il y ait cette collaboration avec quelqu'un, il y ait cette possibilité de retour, ce retour, ce retrouvement.
Par exemple, et dans un domaine justement qui touche indirectement Stravinsky, le début d'un divertissement, enfin d'une danse, d'une réunion de village dans laquelle on va danser, puisque c'est le dernier soir avant la montée vers les Alpages, donc une espèce de séparation du village entre ceux qui montent au chalet et qui vont y rester 3 mois et ceux qui restent au village. C'est donc la dernière fois que les amoureux vont pouvoir se voir, se rencontrer assez longtemps. Et là, il y a un rythme et un rituel presque qui est lent et fort. Les garçons et les filles étaient assis par groupes dans l'herbe. On a bu encore, puis on a dansé. On dansait, on allait boire entre les danses. Les garçons et les filles dansaient et buvaient. Les hommes buvaient. Et eux aussi avaient bu et avaient dansé. Joseph et Victorine avaient dansé toutes les danses ensemble, longtemps, plus longtemps qu'il n'aurait fallu raisonnablement, car on avait laissé descendre sans y prendre garde le gros soleil tout rond derrière la montagne, etc. C'est là, évidemment, une élaboration stylistique extrêmement voulue et qui est l'organisation de la convivialité et de la liberté du village. Elle s'organise à condition qu'on sache bien qu'ils boivent, ils dansent, ils boivent, ils dansent toutes les danses.
Ne fait de la poésie qu'avec l'antipoétique. On ne fait de la musique qu'avec de l'antimusical. Nos vrais amis sont les gens de métier et non pas ceux qu'on nomme les artistes. L'art, on sait ce que c'est du greffé sur du déjà greffé. Or, comme tous les greffeurs savent, on ne greffe que sur le sauvage. On ne greffe que sur le sauvageon. C'est comme ça que nous greffons.
Je vous parle d'une vieille maison rose, une maison d'ignorant qui domine le lac. Je vois briller entre les branches l'eau qui est aujourd'hui extraordinairement bleue à cause de la bise. La glycine est en fleurs, la vigne sur les coteaux voisins, encore frêle et délicate, gagne chaque jour en force. Il y a un grand silence et une grande paix traversée seulement par les cris des oiseaux qui veillent sur leur nichée. Eh bien, n'enviez pas mon sort, vous qui m'écoutez. Je pense à d'autres pays. Je pense à ceux qui, à cette heure, défendent une autre terre, la leur, comme celle-ci est la mienne. Eux aussi, un carré de vigne, eux aussi, peut-être, une maison rose. Et ma pensée est avec eux. C'est pourquoi je suis malheureux. J'ai en face de moi Thonon, Évian, la Dordoche, toutes les montagnes de Savoie, ces vieux villages de pêcheurs sous leur carrière qui font au flanc du monde grandes taches blanches. Cette autre rive du Léman est si nette, elle paraît si rapprochée, qu'il semble qu'on voit pouvoir se tendre la main par-dessus l'eau et on ne peut pas. Mais la voie porte plus loin, et jusqu'à aujourd'hui ne peut-elle pas atteindre grâce au miracle de la TSF? Permettez-moi donc d'adresser mon salut à nos voisins de Savoie, dont beaucoup en ce moment combattent sur le front. Permettez-moi surtout de présenter mon hommage respectueux à la ville de Paris, résumé et somme de la France. Je voudrais la remercier une fois de plus de l'hospitalité qu'en des heures moins tragiques qu'elle a bien voulu me prêter et dont je sais mieux que jamais aujourd'hui tout le prix.
Pour cet homme, né il y a 100 ans, je le répète, c'est-à-dire pour Conrad Ferdinand Ramus, se pose un autre problème, qui n'est pas seulement le problème du langage, qui n'est pas seulement le problème du style, qui n'est pas seulement, peut-être, comme l'a dit Jacques Sellard, enfin, c'est ce langage qui est lié à la montagne, pourrait dire charnellement. Mais Ramus a aussi été à sa façon un moraliste. C'est-à-dire, outre ses romans, outre Aline, outre Si le soleil ne revenait pas, outre La grande peur de la montagne, outre Derborance et ceux que l'on trouve encore en librairie, il y a aussi, comment dire, des essais peut-être, oui, questions, besoin de grandeur, des textes de ce genre, qui laissent Bernard Wayenne, vous qui avez écrit à la Paconnière un livre qui a pour titre Ramus ou la sainteté de la terre, il y a là une défense, une recherche d'abord, puis une défense de certaines valeurs par un nommé Ramus.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire « il y a aussi ». Ça fait véritablement partie à la fois de son œuvre, comme de la plupart des œuvres. Je pense que tout écrivain entremêle des textes de, plus spécialement d'imagination ou de création, des textes de réflexion. Et certains de ces textes que vous appelez moralistes sont tout à fait liés à l'évolution même de la conscience de Ramus par rapport à lui-même. Je pense, par exemple, à Adieu à beaucoup de personnages, qui est véritablement un ensemble de pages de journal. Il y a des pages, d'ailleurs, de journal aussi. Il y a effectivement des ouvrages plus liés à, disons, une réflexion éthique, les uns liés à la conjoncture, et cet homme contemplatif, cet homme incarné dans un coin relativement étroit de territoire, en fait, a été très mêlé à beaucoup de préoccupations. Je ne ferai allusion qu'à la Révolution russe, n'est-ce pas?
Oui, le salut qui
a touché, le grand printemps, beaucoup plus tard, enfin, sensiblement plus tard, à la période qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et tous ces échos, tous ces courants sont venus, ont suscité des réflexions chez lui, comme chez tous les écrivains de son époque. Il n'y a rien de très particulier, il y a des réponses qui peuvent être siennes, c'est tout. Et enfin, pour faire un classement tout à fait sommaire, il y a peut-être une autre catégorie des ouvrages de ce type, des essais ramusiens. Ce sont ceux alors qui portent plus spécialement sur la Suisse, sur la condition de Suisse, besoin de grandeur, auquel vous avez fait allusion. Cette réflexion permanente que Ramus n'a cessé d'entretenir sur sa condition de Suisse. Qu'est-ce que c'est que d'être roman, n'est-ce pas, dans l'Europe de la première moitié de ce siècle? Et le sentiment d'une certaine petitesse, non pas seulement géographique ou physique, mais d'une sorte de petitesse de l'esprit, l'a hanté, et en même temps, et alors là nous débouchons, et je m'arrêterai sur ce point, sur une réflexion éthique, c'est à partir de cette petitesse, dans plusieurs sens du terme, c'est à partir de cette humilité, de cette condition locale, qu'il a cherché à retrouver un certain universel. Et alors là, il y a un lien évident, étroit, entre ses œuvres de création et ses réflexions dans leur ensemble, plus spécialement ses réflexions sur la condition de roman ou d'écrivain roman au XXe siècle.
Nourriture de partout, nourriture de toujours, et proche malgré tout du sol. N'est-ce pas, quand je vais à vous et vous respire, avec lui que je communique, mystiquement et grâce à vous? Lune qui est un minéral, tranchante d'arête, semblable aux cailloux, que la chèvre cherche avec la langue à la surface de la roche qui est roche, dont chaque morceau imite en petit un bloc de rocher. Puis le pain, dont la croûte a juste la couleur de l'épi parvenu à son point de maturité, dont la mie a le grumeleux, le poreux, le tendre, qui durcit à l'air de la terre, le pain qui, mis en miche, quand on le sort du four, est chaud comme le champ sous le soleil, et au-dessus tremble la même buée, et le dessus de cette miche est comme une ligne d'horizon. Le vin, enfin, le vin qui est rouge comme le sang, étant le sang de la terre, le vin qui sent le caillou quand on le frotte dans ses mains, le vin qui garde dans sa masse et la transparence de sa masse toute la lumière, tout le soleil, toute la chaleur de la belle saison, laquelle se réveille dans nos veines, et c'est en nous une journée d'été. Le vin jaloux, qui mit dans les tonneaux, quand la sève monte, tressaille, se souvenant encore, peut-être regrettant, puis qui retombe et se résigne, à mesure que la grappe tend par son propre poids à descendre au nouveau panier. Ô chose de partout, chose de tous les temps, chose qui fait qu'on ne sait plus où on est, chose qui contenait l'oubli, l'illusion, le rassasiement, la satisfaction complète, chose qu'on n'a plus quand on meurt, fruits essentiels, nourriture de l'âme, chose qui est à la fois les plus grandes images et les plus grandes réalités, chose qui fait rêver et qui fait qu'aussi, afin de vous avoir, on se détourne de son rêve pour le travail quotidien. Permettez qu'une fois de plus, je considère où vous êtes, dans votre nue réalité, rapprochée tout autour de moi, contenue toutes les trois, quand même, dans mon pays qui est petit, mais qui tout à coup, grâce à vous, devient grand, et grâce à vous, l'égal de tous les autres, supérieur même à tous les autres, le plus beau, le plus aimé.
Je crois d'ailleurs, Claude Bonnefoy, que vous serez d'accord avec moi, parce qu'on remarque plusieurs fois chez Ramuse, non seulement dans les textes théoriques, mais par la pratique même du roman, à quel point il tient très effectivement, comme l'a dit Bernard Royenne, à atteindre l'universel par le truchement du particulier. Enfin, il y a chez lui, à ce moment-là, une sorte de vertu d'incarnation, pour employer un mot qui me semble quand même ne pas être démesuré par rapport à lui.
Oui, mais c'est un écrivain qui écrit à partir de son sol. Et je crois qu'il n'était pas seul en son temps à écrire à partir de son sol. Il y en avait d'autres qu'on appelait des écrivains, de façon péjorative d'ailleurs, des écrivains régionalistes, qui pouvaient être à Poura ou même à un certain moment Giono. Et on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui que cette écriture est une écriture enracinée et que, à partir d'un savoir très particulier mais très profond, on arrive à parler de l'ensemble des choses qui concernent les hommes et qui concernent l'univers. Je crois que c'est là la force d'un Ramuse, de ne pas s'être limité à ce qui était purement particulier dans sa Suisse romande, mais à travers ce quotidien ou ce vécu de la Suisse romande, trouver, comme au fond les tragiques grecs, à partir de la vie de soldats d'Homère ou de bergers arcadiens, arriver à atteindre à une dimension tragique, épique ou philosophique.
Oui, il y a un autre aspect, cependant, chez Ramuse, qu'on a, je pense, toujours un peu tort de négliger. C'est peut-être le Ramuse fantastique, car il y a un fantastique ramusien, Bernard Royenne.
Oui, mais...
Si le soleil ne revenait pas, par exemple, en gros, on peut quand même le faire basculer dans une certaine littérature fantastique.
Alors, vous savez, je ne suis pas compétent pour reprendre des discussions assez subtiles sur le fantastique et les autres variantes autour de littérature de ce genre. Ce n'est pas mon domaine. Je crois que je l'appellerais tout simplement une angoisse métaphysique. Enfin, ce fantastique est en réalité une forme donnée, et une forme romanesque, non pas un simple vêtement, mais très profondément la forme que prenait son angoisse métaphysique, car c'est un homme très, très profondément angoissé. Tous les écrivains le sont peut-être, mais parmi les écrivains, il y a même dans le regard, tous ceux qui ont vu un portrait de Ramu voient, enfin, non pas cette espèce de pâtre des montagnes que certains ont fait parfois, mais un homme très profondément angoissé sur le plan métaphysique, disons même proprement religieux. Alors, ce fantastique, je veux bien l'appeler comme ça, c'est en réalité une sorte de dimension épique qu'exprime pour lui notamment la montagne, le caractère inhumain, le caractère tellurique de la haute montagne, et qui était le véhicule, le truchement, et en même temps l'apparence, enfin le langage, si vous voulez, de ses propres problèmes profonds. Oui, dans le livre auquel vous avez fait allusion, dans La Grande Peur dans la montagne, le terme même le dit, mais c'est la grande peur de l'infini, c'est la grande peur de l'inconnu, dans Si le soleil ne revenait pas, aussi, n'est-ce pas, qui est proprement un ouvrage métaphysique. Qu'est-ce qui se passerait? Il n'est pas le premier à avoir posé le thème, mais il l'a posé en termes liés à son propre paysage, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passerait si demain, c'est le fondement même de toute civilisation, et notamment de toute civilisation paysanne, n'est-ce pas, si le soleil ne revenait pas.
Sans lampe, où on s'avance les mains tendues, tâtonnant contre tes parois. On avait cru t'envisager tout entière. On connaît maintenant que ce qu'on savait de toi, c'est ce qu'on avait déjà dépassé. C'était les parties d'en arrière. Et celles d'en avant, une grande nuit nous les cache et toutes leurs possibilités. C'est vers elles que je vais maintenant, et leur suis d'avance docile, consentant d'avance aux erreurs en vue d'un agrandissement, consentant d'avance à tomber, ramper sur les genoux, tourner en rond peut-être, heurter ma tête durement quand j'aurais prétendu la redresser trop tôt, la leçon venant après la leçon, l'obscurité durant quand même. Et peut-être n'aboutirai-je jamais à l'endroit du grand jour et de l'issue, le grand jour pour un temps, une issue provisoire, mais à cela aussi, j'ai consenti. Adieu à tous ceux qui m'ont entouré, que j'ai aimé, que j'ai connu, que je sois dépouillé d'eux, que je sois nu, que je retombe à la solitude, qu'il y ait autour de moi cette privation d'amour qui est l'occasion du désir. Chemin tortueux du monde, succession de jours et de nuits, à peine cette lampe a-t-elle paru qu'elle est éteinte. À peine ce tournant est-il franchi qu'il se présente un autre tournant. Mais peut-être qu'ainsi, de mort en mort nouvelle, de résurrection en résurrection, arriverai-je une fois au lieu supérieur d'où tout se découvre et où la raison de tout s'aperçoit. L'espace sera supprimé, il n'y aura plus de distance. Ceux-là même que j'ai quittés, parce que je les aurai quittés, seront tout près de moi. Ô règne de la parfaite ressemblance, alors, à laquelle dès à présent j'aspire. Comment même pourrais-je les distinguer l'un de l'autre, qui ne seront plus devant moi que comme une seule personne, dont le visage dira oui et plus jamais non. Moi-même participant à eux, eux confondus à moi, moi confondu à eux, moi rentré dans cette personne d'où je suis, malgré tout, sorti. Et la mort n'apparaîtrait plus que comme une naissance à rebours.
Je ne voudrais pas entamer une polémique sur, de nouveau, un adjectif. Après tout, il suffit de savoir ce qu'on met dedans. Mais enfin, moi, je ne crois pas que Ramu soit un régionaliste au sens où on a habituellement pris le terme. C'est un écrivain, c'est un poète tout court. Bon, il était vaudois et ça a joué un très grand rôle, mais Proust était parisien et ça a joué un très grand rôle. Et je ne vois pas pourquoi on appellerait Ramu. Il faut le situer, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Mais enfin, il faut le situer en tant que poète et en tant qu'écrivain. Je crois, pour lui en tout cas, car il est vrai qu'il y a eu un certain régionalisme assez contemporain de lui-même ou un peu antérieur, qui a pu d'ailleurs aussi jouer un certain rôle. Mais il a toujours protesté avec vigueur, n'est-ce pas, contre cette étiquette du régionalisme. C'est pourquoi je me permets de la relever, non pas par manie des mots, mais parce que, en fait, il est parfaitement vrai qu'il s'est incarné, comme vous le disiez, dans sa terre et qu'il ne l'a pas renié, mais qu'à travers cette terre, ce qu'il a recherché, je disais tout à l'heure, c'est l'universel, n'est-ce pas? Et si vous permettez, je finirai là-dessus, n'est-ce pas, en lisant les quelques mots qu'il a écrits, puisque nous célébrons son centenaire, mais aussi nous pensons à sa mort qui date d'environ un an près de 30 ans. Il parle de son pays, n'est-ce pas, et de lui-même, et il dit, mes personnages, dans les quelques mots qu'il avait écrits en préface à mon livre, n'est-ce pas, donc il a écrit ça, probablement le dernier texte ou à peu près qu'il a écrit. Mes personnages à moi sont en marge de la société. Ils ne sont pas propriétaires ou ils le sont si peu qu'il m'aurait été permis de ne pas les situer. Si je leur suis fidèle, c'est uniquement par sympathie au sens plein du mot et par sympathie humaine. Il m'arrive en effet de m'évader. Je suis dans le Yucatan, en Chine, dans une grande usine de la plaine de Saint-Denis. Et si je ne me suis jamais hasardé à les dire, ces divers lieux et ceux qui les hantent, ce n'est pas faute d'intérêt, c'est par scrupule, c'est parce qu'il m'est impossible de parler des gens et des choses que je n'ai pas d'abord vécu par le dedans. Et il finissait ce même texte, j'abrège, en disant, tandis que nous autres, il s'opposait aux romanciers de pure imagination, ne pouvons que jeter un regard entre les barreaux de nos cages et tenter des incursions muettes dans un univers dont il serait très injuste de croire que nous nous désintéressons parce que nous n'en parlons pas. C'est cet univers, c'est ce Yucatan, c'est l'homme en général qu'il a retrouvé dans l'homme en particulier.
Oui, mais pour revenir à ce terme de régionalisme, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est d'ailleurs un terme que je n'use pas, dont je n'use
non, non.
pas.
C'est
mais,
pas un procès, d'ailleurs.
Non, mais simplement, il faut bien quand même voir dans l'évolution de la littérature, et c'est à ça que Claude Bonnefoy faisait allusion, il faut bien voir qu'on a employé le terme de régionalisme pour chasser hors de la littérature un certain nombre d'écrivains. Donc, si vous voulez, c'est un terme qui a quand même pris une coloration péjorative très vite. C'est, je crois, Claude Bonnefoy, ce que vous vouliez dire en employant ce terme-là.
C'est ce que je voulais dire et qui a pris une coloration péjorative, quelquefois pour certains écrivains mineurs, peut-être pas tout à fait à tort, mais pour quelques écrivains qui sont de très grands écrivains, c'était une manière de les mettre hors circuit, et hors circuit d'abord du champ littéraire parisien. Quand Ramus écrivait, alors je reviens, si vous voulez, à ma comparaison avec Poura et Giono, qui sont aussi de très grands écrivains. Quand il écrivait, le champ littéraire se répartissait en gros en deux choses, en deux tendances. Une tendance réaliste qui était essentiellement celle d'un milieu bourgeois citadin, qui décrivait ce milieu bourgeois citadin, ou qui décrivait dans une autre tendance des problèmes de lutte des classes et des problèmes de littérature engagée. Et à côté, il y avait une littérature de pure recherche qui se nourrissait du questionnement des textes et qui se nourrissait d'une interrogation sur sa propre fin. Donc, une littérature qui venait d'ailleurs de Suisse ou de Provence ou d'Auvergne, et curieusement, les trois noms que j'ai cités sont des gens qui appartiennent à la montagne. Il ne faut pas oublier que quelques-uns des plus grands textes de Giono et les plus angoissants et les plus fantastiques sont des textes qui se déroulent dans la montagne, ne serait-ce qu'un roi sans divertissement ou les résidents Suse.
Et Poura, bien sûr, la montagne d'Auvergne.
C'est la montagne, ce sont des gens qui donc venaient de ce milieu marginal et qui écrivaient à partir d'un terroir et à partir d'une confrontation avec la nature. Et si on revient aujourd'hui, si aujourd'hui on peut commencer à les relire et à peut-être à s'apercevoir beaucoup mieux de leur importance et de leur caractère à la fois universel au niveau de leur vision, mais aussi de leur caractère parfois novateur en tant qu'écrivain, c'est parce qu'il y a tout un courant idéologique et tout un courant également lié à la société de consommation qui nous ramène vers la campagne. Il y a tout le courant écologique et il y a tout le courant touristique qui fonctionne en même temps. Seulement, ils ont un avantage considérable sur les écrivains qui voudraient aujourd'hui essayer de rejoindre ces courants, c'est qu'ils ne partent pas de la ville pour aller faire un petit tour innocent et plaisant dans la montagne et sous la protection de guides savamment spécialisés et avec des chalets très confortables pour les accueillir, mais c'est qu'ils l'ont vécu. c'est qu'ils ont été confrontés à cette nature, c'est qu'ils ont une connaissance, c'est presque biologique de cette nature et presque ancestrale de cette nature. Ils ont une écriture qui est, bon, je crois, vous citiez tout à l'heure, je crois que Jacques Sellard a dit que le style de Ramuse était un style presque charnellement montagnard, et je pense que c'est quelque chose d'important pour les écrivains de cette sorte, c'est d'écrire à partir de leur confrontation à la nature et d'avoir une écriture qui est une sorte de lutte avec le monde, une sorte de lutte des mots avec le monde, où ils veulent affirmer leur présence par les mots, où les mots doivent arriver à avoir le dernier mot.
Salut quand même, vous tous, pays le long du Rhône qui êtes les miens. Quand même, vous ne seriez qu'une toile peinte devant rien du tout, comme sur une scène de théâtre où on joue et puis on la roule. Quand même, vous n'auriez été que mensonge et d'un temps, justement à cause de ça peut-être, et pendant que vous êtes là. Vous commencez à pencher, vous commencez à vous détendre, comme la voile quand il y a moins de vent. Alors je vais vous regarder encore, vous aimer encore une fois, vous voyant mieux, vous aimant mieux de savoir que je ne vais plus vous voir, d'être à la fin de vous aimer. Parce que vous êtes là, parce que vous ne serez plus là aux peintures, choses peintes, choses étendues devant nous au moyen d'un peu de couleur et des écaillures s'y font. Peinture de vert, de bleu, de blanc, de gris, peinture d'herbe, d'eau, de rochers, aux vallées, aux doubles rebords, tantôt élargis, tantôt rétrécis. Double côte pierreuse avec de l'eau dans l'entre-deux, qui est devant mes yeux ici, puis je vais la chercher plus loin par la pensée. Je l'ai continuée à ses deux bouts par la pensée, et je me la peins au-dedans de moi encore une fois. Salut, encore une fois. Salut, toi d'abord, la réelle, et salut l'imaginé, celle que j'imagine encore, comme quand le potier fait son vase, l'ayant façonné lui aussi dans sa tête, puis faisant sortir peu à peu cette conception qu'il a de la terre glaise, faisant descendre la forme depuis sa tête, le long de ses bras, jusqu'à ses doigts. Parce que vous êtes là, parce que vous êtes à moi, parce que je vous tiens devant moi, et encore une fois, dans votre écoulement, je vous arrête, je vous fixe. Ô vous, pays qui êtes peint, mais vous serez dépeint, alors je cherche vite à vous peindre à nouveau. Le bateau allait sur l'eau, le bateau va cesser d'aller. Le bateau recommencera à aller, parce que c'est moi qui le meux. Je fais bouger la branche du figuier par une autre espèce de mouvement. J'ai le son, le mot, la couleur. J'ai des lignes, j'ai des surfaces, je mets en place, je fais tenir droit, je fais s'élever, je fais agir, je fais cesser d'agir, comme je veux. Chose, allez-vous-en seulement, je vous ai assez vu, vous ne me contenez plus, c'est moi qui vous contiens, c'est mon tour. Enseignez d'abord par vous, à présent vous enseignant. Oh! Enseigné par toi, et depuis longtemps, je sais bien, depuis tout petit, enseigné par toi, parce que tu venais déjà quand je ne savais pas entendre, je te voyais déjà quand je ne savais pas voir, Rhône, lac, toi qui venais avec une cadence le jour et la nuit, m'instruisant de l'accent, m'instruisant des retours, m'instruisant des longueurs, avec une cadence, la mesure de tes vagues, trois, et trois, et puis trois, et puis encore trois, c'est 12, et puis un silence, et puis tu repars. Tu m'as enseigné le retour du rythme, alors à présent, je peux l'enseigner. Et salut, vite encore, parce que tu t'en vas, parce que tout s'en va, parce que rien ne doit durer, parce que rien ne peut durer, salut, une dernière fois. Lame de feu, pluie de gouttes, huile bouillante, poêle à frire. Miroir comme celui qu'il y a dans la chambre d'une belle fille, un jour qu'il fait clair dans son cœur.
Chez Ramus, cela est très frappant, puisque, je le disais au début de cette émission, il a quand même écrit près du tiers de son œuvre à Paris. N'est-ce pas ? Donc c'est exact qu'il est venu à Paris de 1914.
Oui,
il est venu à Paris avec sa montagne.
Loin. Là aussi, je nuancerais. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Si l'authenticité ramusienne peut être le chemin pour, disons, des jeunes générations qui finalement ne le connaissent pas, ni en bien ni en mal. Je crois qu'il passe dans une période purgatoire. Si donc cette authenticité peut être un chemin, bien. Mais s'il y avait là-dessus un malentendu, je crois qu'il faudrait tout de suite le dissiper. Vous venez de le dire, c'est pas un paysan vaudois. Peut-être Poural était davantage. Bon, ne tentons pas des parallèles. Mais en tout cas, peut-être pas beaucoup plus. Mais en tout cas, lui, pas du tout.
Et d'ailleurs, il est né à Lausanne, ville.
Il est d'un milieu urbain. Il a fait des études à Paris, universitaires. Il a toujours vécu en ville, aimé très fort la nature, c'est vrai. Mais ça n'est pas un privilège de paysan. C'est peut-être même d'ailleurs les paysans qui aiment le moins la nature, d'une certaine manière. Je crois, parce qu'il affronte trop. Et c'est un ami de Valéry. C'est un ami de Claudel, c'est un ami, vous l'aviez dit tout à l'heure, de Stravinsky. Il n'est pas plus paysan vaudois dans ce sens-là du terme. Je n'aurais pas du tout récusé le terme de paysan au sens universel. Mais pas plus paysan vaudois que Cézanne n'était un vigneron provençal. Enfin, c'est du même ordre, n'est-ce pas? Donc je crois que là aussi, et nous sommes toujours un petit peu sur une ligne de crête. Oui, enracinement, oui, incarnation, oui, authenticité, oui, même un certain naturalisme. Et là, alors de nouveau, on verrait s'ouvrir des subtilités que nous refermons peut-être tout de suite, mais non, comme je disais non tout à l'heure au régionalisme pour l'exaltation de la différence, non à l'étrangeté pour l'étrangeté ou à la nature pour la nature. Enfin, n'est-ce pas, au retour à la nature ou je ne sais quel thème naturaliste de ce genre. C'est totalement opposé.
Non, mais je crois qu'il ne retourne pas à la nature. Il n'a pas retourné à la nature. En fait, il ne l'a jamais quitté. Enfin,
oui.
Je veux dire
oui,
que
dans ce sens-là,
on n'a pas
il
besoin
a jamais quitté la nature parce que pour lui, c'est sa vision du monde. Enfin, son élément de dialogue. Ce solitaire n'a finalement jamais dialogué qu'avec la nature et avec des êtres de nature qui sont d'ailleurs souvent beaucoup plus, et c'est peut-être alors sur un plan plus littéraire, un reproche qu'on pourrait faire, qui sont beaucoup plus des archétypes, n'est-ce pas, des prototypes, ces personnages, que des êtres tout à fait de chair et de sang, n'est-ce pas? C'est plutôt dans ce sens-là des personnages de théâtre. Il y a très peu de psychologisme chez Ramus, et même il y a une haine du psychologisme en tant que tel.
Certainement, oui.
Ils sont eux-mêmes de la nature, enfin, ils dialoguent avec les êtres, comme avec les rochers ou avec les eaux, etc. Il y a un côté tellurique, je le disais tout à l'heure.
Oui, mais ce qui est important, c'est que ce que vous disiez aussi, c'est que tout est quand même taraudé dans Ramus par sa propre angoisse. Enfin.
Oui.
Et ça, la grande peur, bien entendu. Donc ça, c'est quand même très important, Claude Bonnefoy.
Oui. Pas du tout, justement, l'innocence, enfin, d'un certain retour à la nature.
Quand je disais que Ramus, ce n'était pas le touriste qui allait dans la campagne, c'est au contraire quelqu'un qui l'a vécu et la connaît de façon profonde, mais qui, devenu écrivain, c'est-à-dire par l'écriture d'une certaine manière coupé de la nature, coupé du monde naturel, l'écriture c'est un monde, c'est le monde des mots, c'est le monde du langage, c'est un monde créé par l'homme, a voulu recréer dans ce monde des mots la nature et faire passer cette angoisse qu'il éprouvait devant la nature, la faire passer dans l'écriture. Et pour lui, c'était un problème d'écriture. Et si Ramus a été parisien, c'est peut-être aussi comme Joyce a été parisien. C'est-à-dire pour pouvoir recréer le monde qui le hante, et qui le hante jusqu'à l'angoisse et jusqu'à la peur, le recréer à partir d'une certaine distance. Parce qu'en étant dedans, il est à ce moment-là dans le vécu, dans l'angoisse, dans la peur, et il n'est plus dans l'écriture.
Oui, je pense que c'est très important, d'ailleurs.
Il est venu à Paris, vous savez, pour autant que je le sache, pour des raisons qui ne sont pas contradictoires avec celles que vous donnez, mais qui, d'une certaine manière, sont beaucoup plus banales. Oui. Il est venu à Paris comme un jeune homme de sa génération, vivant dans les marges, à une époque où on n'exaltait pas du tout les petits pays. Il est venu vers la grande ville pour y finir ses études d'abord et pour échapper à une certaine petitesse vaudoise. Et il le dit bien, tous ses écrits de la période parisienne, c'est à partir de l'exil, de ce qui est devenu pour lui un exil, mais qui avait d'abord été un peu un miroir, enfin aux Alouettes, un pôle d'attraction, qu'il a retrouvé, n'est-ce pas ? Je n'avais jamais mieux compris le pays que depuis que je l'avais quitté. Et ici, Trimbaud, n'est-ce pas ? On ne part pas, reprenons les chemins d'ici. Et c'est à ce moment-là qu'il a retrouvé sa, non pas sa particularité, mais ses racines, n'est-ce pas ? À partir de la distance, il y a fait tout un jeu de la distanciation, Paris. Mais le point de départ est une sorte d'exil de jeunesse, enfin, comme n'importe quel provincial. D'ailleurs, là, il n'y a pas de grande différence qu'il soit né à Lausanne ou à Pézenas, il serait monté à Paris, comme on disait, n'est-ce pas ?
Guerre et querelle cet après-midi dans le ciel entre le soleil et les nuages, et ceux-ci se sont arrangés pour empêcher le soleil de passer. On voit qu'ils y ont dressé toute une série de retranchements sur plusieurs lignes parallèles, tout un système de tranchées, après quoi ils ont dit au soleil « Essaie à présent ». Le soleil a regardé, il a dit « Est-ce que vous croyez ?» Le soleil s'est avancé, les retranchements ont été forcés, mais ils n'ont été forcés qu'à moitié. Le soleil, pour passer, a dû passer derrière. Une grande ombre alors est venue, une grande ombre est tombée sur nous. On la voit fuir sur les champs, comme à l'arrière de la barque il y a le filet qui pend. L'apparence de tout change, la colline est effacée, il y avait une pente devant vous, il n'y en a plus. On voyait un village. Cette tache claire a été ôtée, comme quand une fille ôte son mouchoir de cou. Et dans le pré où cette autre fille est en train de râteler, il semble que ce ne soit plus la même robe qu'elle est mise. Et au lieu d'une robe bleue, c'est une pauvre petite robe grise.
Ce que vous dites est quand même un peu encourageant, j'ai l'impression, parce que cela voudrait dire que nous sommes à la veille de redécouvrir Ramus. Claude Bonnefoy.
Je pense qu'en tout cas, les conditions peuvent être bonnes pour redécouvrir Ramus, dans la mesure où il y a aujourd'hui un intérêt pour à la fois la difficulté d'être, pour le fantastique et pour la nature. Intérêts qui, généralement, sont divergents, qui apparaissent sur l'échiquier idéologique d'aujourd'hui de façon assez sporadique et peut-être contradictoire, mais qui peuvent, dans le cas de Ramus, se cristalliser en une seule œuvre et intéresser des gens venus d'horizons assez divers qui retrouveront là des préoccupations qui sont celles d'aujourd'hui et qui retrouveront une écriture qui est une écriture enracinée. Alors c'est aussi une des grandes questions d'aujourd'hui, à partir d'où peut-on écrire ?
Jean Daniel, qui a 80 ans, n'est pas comme les jeunes gens d'à présent qui sont malades tout le temps. Il est solide comme un chêne. Il dit « Je n'ai jamais rien eu. J'ai bon bras, j'ai bonne tête, il n'y a que les jambes qui ne vont plus. » On dit « Vous avez de la chance ?»« Oh, bien oui !» qu'il dit « Si j'avais mes jambes, seulement on ne les a plus. » Alors on vient, on s'assied devant la porte. C'est l'heure où les chauves-souris sortent. Quand on regarde en l'air, on les voit qui se secouent entre les toits et vont boitant avec leurs ailes. On sent encore un peu la chaleur des murs. Plus tard, une petite bise se lève. On dit, cette fois, c'est le beau. Pour sûr. Jean-Daniel se tient dans sa chaise avec un dossier en osier. Il a des petits yeux tout plissés et un grand creux à l'endroit des lèvres. Il a les mains sur ses genoux, il ne bouge pas. Seulement, il a des fois un tremblement comme les arbres quand le vent souffle. Cette guerre du Sondrebon, qu'il dit, c'est la faute des catholiques. Ils auraient voulu avoir la Suisse rien qu'à eux, et puis c'est fini. Nous, on serait devenus allemands, ou bien anglais, ou bien français, ce qu'on sait, et où on serait à présent. Ils auraient voulu nous mettre dehors. Nous, on a dit « Arrêtez-la, on ne veut pas !» Alors, ils ont crié plus fort. Alors, on a aussi crié. Voilà comment ça a été. Il faut bien dire aussi, pour être juste, qu'ils ont une drôle de religion. Ils brûlent des choses pendant leurs sermons. Ils ont des curés qui ont mis des jupes. Nous, on a le bon Dieu, Jésus-Christ. Et c'est bon, eux, ils croient encore à la Vierge Marie, à des saints en bois tout plein leurs églises, et à des papiers où c'est imprimé. Il faut penser à cette différence. Ils ont d'abord été têtus, ensuite on n'a plus pu s'entendre, et puis enfin, on s'est battu.
Lire Ramus, nous avons vu par cette émission que, mon Dieu, cela ne se pratiquait guère aujourd'hui. Mais comme l'a dit Claude Bonnefoy, il est très possible que les conditions présentes soient réunies, soient favorables à une relecture de Ramus, ou plus exactement à une redécouverte, sinon à une découverte de Ramus. Alors j'ai choisi comme dernier interlocuteur un lecteur, plus exactement une lectrice d'avenir, puisqu'Isabelle a 13 ans, qu'elle n'a pas encore eu l'occasion jusqu'ici de lire Ramus. Mais enfin, je lui ai montré un petit poème de Ramus, et je vais lui demander d'en lire quelques vers.
C'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va sa vie sans se presser sous ses noyers. Il a de beaux vergers et de beaux champs de blé, des champs de trèfle et de luzerne, roses et jaunes dans les prés, par grands carrés mal arrangés.
Quand je t'ai montré ce poème, Isabelle, tu n'as pas du tout eu l'air surpris. J'avais l'impression que tu le connaissais.
Oui, je le connaissais parce que je l'avais déjà fait en récitation.
Ah bien, tu avais un instituteur ou un professeur, je ne sais pas ce qui c'était, qui avait du goût en tout cas pour te faire. Ça t'avait plu à l'époque?
Bon, oui, je l'avais fait sur un livre de texte.
Oui, bien sûr, mais enfin, est-ce quand tu as lu, récité ce poème, donc quand tu l'as appris de mémoire, quand tu l'as appris par cœur, est-ce que ça t'a plu, cette idée d'un village comme ça, cette idée d'une vie plutôt à la campagne, toi qui es citadine quand même, toi qui connais très bien les pavés de Paris, si on peut dire?
Je trouvais ça joli.
Et ça ne te donnait pas envie, peut-être, de vivre dans un endroit comme ça?
Oh non, c'est trop isolé, je trouve.
Ah bon, tu préfères quand même quand il y a des gens?
Oui.
Mais tu sais que dans les romans de Ramus, les gens, tu vas les rencontrer. Évidemment, ce ne seront pas des gens comme ceux que tu vois en ville, bien qu'ils aient les mêmes préoccupations, un peu plus profondes, peut-être. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la lecture?
Le fantastique, moi.
Mais Isabelle, quand tu étais plus petite, quand tu étais enfant, tu as longtemps vécu dans les environs de Limoges, enfin à Limoges, je crois. Et là, tu as eu un contact avec les forêts.
Ah oui, là, j'aimais bien, il y avait des forêts, je m'amusais avec mes copines et tout ça. On allait sur le bois, dans le bois.
La rivière?
Oui.
Et ça te faisait quelle impression par rapport à Paris?
Ben, moins refermée. Dire, j'avais plus d'air, c'était libre, quoi, j'étais libre.
C'était une notion de liberté, alors?
Oui.
Et ici, tu te sens plus enfermée?
Oui. Mais c'est bien quand même.
Nous avait fait ce jour-là un magnifique soleil désassombri. Les cloches sonnaient. On explique que les cloches ne sonnaient que pour les fidèles, mais ne serait-ce pas seulement que toutes les fidélités se rencontrent et les fidèles se reconnaissent entre eux? Du moins se sont-ils reconnus aisément et de loin ce jour-là. La Marne sonnait au clocher. Dieu avait fait un ciel exprès dessus et choisi son plus beau velours. De quel cœur est-ce qu'ils ne sont pas montés les quelques 300 ou 400 marches de leur escalier tournant, les vieux sonneurs de la cathédrale? On les voit, ils sont de chez nous, ils sont lents et d'humeur narquoise, mais ce jour-là, ils se sont dit, c'est pour Joffre qu'on va sonner. Alors ils sont montés 4 à 4, ayant bu d'ailleurs un coup de trop, j'espère bien, et le trimballement en l'air de ces 5 ou 6 grosses filles à jupes de bronze aurait été beau à voir si on avait pu. Mais ces belles demoiselles ne se contentent pas de sauter, elles font savoir qu'elles sautent. Elles chantent la chanson de leur danse tout en la dansant. Si elles ont de bonnes jambes, elles ont aussi une bonne voix. Elles vous ont pris ce coup de gosier par le gros bout et l'ont jeté à plein jusqu'où il fallait, c'est-à-dire jusqu'où il était repris et plus loin encore. Les cloches étaient contentes, on l'a su dans tout le pays. Elles se le sont dit, elles se le sont répétées. Elles se le sont dit l'une à l'autre, elles se le sont dit toutes ensemble. Là où une chanson s'arrêtait, c'est qu'une autre chanson en partait, et le balancement entrait dans le balancement. Toutes ces dames, partout le pays, en goguettent. Et quand enfin elles se sont tues, ça n'a été que pour mieux écouter venir, de derrière le Jura, le grand bruit joyeux de la délivrance du monde. Le poète utilise tout. La force de sa vie est qu'il domine les circonstances. Elles sont ce qu'elles peuvent, et il ne prétend pas à les faire. Mais les envisageant d'un lieu plus élevé, il en tire toujours un enrichissement. Il leur livre ses portions destructibles, mais celle qui ne l'est pas, en lui, tire profit de leur destruction. Or voilà que le peuple, pour un temps, est poète, ou plus précisément, tel peuple que je sais bien. Il n'y a pas besoin de les nommer à nouveau par leur nom. On les distingue assez qui remplissent nos deux horizons, l'un qui est debout à ma droite et l'autre, beaucoup plus loin, à ma gauche, debout. Que je les évoque pourtant ici encore une fois, me mettant sous leur protection, et mettant sous leur protection la liberté de mes pensées. Elles tendent vers eux, mais à partir d'un centre qui est à moi. Et elles volent vers eux, mais pour revenir se nicher au colombier que je sais bien, ouvrant chaque matin et refermant chaque soir sa porte, l'ouvrant quand l'aurore m'en fait signe d'en haut la montagne, la refermant quand la nuit va venir. Sous ce ciel quand même, et ce ciel à moi, pas un autre, et dans cette terre à moi. De nouveau, poussant ma table contre la fenêtre, je vois un espace défini pour l'œil. Je vois une forme de rive et une forme de rocher. Les barques aussi qui passent ont une forme à elles. Je me resitue en ce lieu, afin de me mieux affermir, et le connaissant mieux qu'un autre. L'hiver s'y est fait pour moi. Mais c'est ici aussi que le printemps se fera pour moi, toutes les espèces d'hiver, toutes les espèces de printemps. Ils vous peignent un joli ciel bleu, suspendent à chaque branche un nid sur le bord duquel l'oiseau chante, vous émaillent les prés de fleurs, et dans un rayon de soleil tremblote sur deux ailes coloriées le papillon des beaux jours. Je sais, moi, que ce printemps sera âpre et dur, lent à se faire, plein d'averses et de bourrasques, avec un rideau de soleil qui pend, et tout à côté un rideau de pluie. Je sais toutes les difficultés qu'il a et aura à se faire. Mais en même temps, je l'éprouve mieux d'être parmi, d'être dedans. Il ne me déplaît pas d'être tourmenté comme lui, et successivement espérance et désespérance. Je le vois se faire en détail, mais se faire quand même. La sève universelle m'est mieux connue d'emprunter sous mes yeux la tige de la ravenelle qui s'accroche à mon mur. Ô chère chose et forme familière, je sais bien que vous n'êtes qu'un vase, mais sans le vase, où est le contenu? Je me suis écarté de vous un instant, parce que vous ne me suffisiez plus. Voici que je reviens à vous, mais c'est que vous êtes plus riche, d'une richesse que je porte en moi-même.
Relecture, une émission de Hubert Juin. Aujourd'hui, Ramuse, avec la participation de Claude Bonnefoy, Jacques Sellard, Bernard Voyenne et la voix de Ramuse. Texte lu par François Mestre et Henri Virelejeu. Prise de son et mixage, Arlette Adrian. Collaboration, Jean-Pierre Hubert. Assistante, Claude Giovanetti. Réalisation, Anne Lemaitre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 septembre 1978. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.